Bilan d'eau, le nègre. Ça avait été un vieux château fort grognon, avec tour et mâchicoulis, douves et pont-levis. C'était maintenant une ravissante et vaste maison moderne, et on n'avait conservé que les murs de 2 mètres d'épaisseur. Je vous laisse à penser les fenêtres que cela faisait, malgré leur largeur. De véritables embrasures. Les douves sont pleines d'eau courante, où l'on pêche de chez soi, de son lit même, en se penchant un peu, comme fait le spirituel savant Monestier, membre correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Au-delà, le parc immense, avec ses sapins de port d'arbres, qui porte de si beaux plumets verts. Château, maison et parc se nomme le domaine de Dombard. La jeune comtesse de Bresle l'habite avec sa mère et son frère durant tout l'été, et l'on y mène une joyeuse vie. Le jour, on fait des excursions et des cavalcades, le soir, on danse, à moins que l'on ne conte des histoires, ce qui n'arrive que lorsque M. de Monestier est au château. Oh, il en sait à faire dresser les cheveux sur la tête. Il y avait bien ce soir-là une 20aine de personnes au château de Dombard, toute la haute et basse parenté de Madame de Bresle, et on riait comme des fous, parce que la vieille Madame de Credental, qui est myope, a pris à partie le nègre en bois d'ébène qui orne l'antichambre et l'a tancé d'importance. Ce nègre, d'un travail très ancien, très naïf et très habile, est sur un socle assez bas de grandeur naturelle et dans l'attitude du dieu du silence. Un doigt sur les lèvres, il rit d'un rire singulier, montrant des dents d'ivoire. Cette tête picaresque ne manque pas de caractère. Je ne l'avais jamais vue sans être frappé de sa sombre gaieté. Le nègre était là, de temps immémorial. L'antichambre du château, toute en marbre des verts des Pyrénées, avait été conservée telle qu'elle pour la maison moderne. Et cette curieuse, cette précieuse, cette sculpturale occupait toujours la place d'honneur. Ce nègre était d'ailleurs merveilleusement conservé. Seulement, un clou à tête carrée était enfoncé dans sa gorge. On ne savait à quelle époque remontait cet acte de vandalisme. Madame de Prémontal avait donc pris le nègre pour un valet de pied et l'on s'amusait encore de sa colère comique lorsque M. de Montesquieu fut sans entrée dans le salon. Le bon vieillard était la coqueluche des jeunes filles. Il fut bientôt entouré. « Oh, vous voilà donc enfin, mais où étiez-vous? Nous vous avons attendu pour dîner plus d'un grand quart d'heure. »« Oh, c'est ma foi vrai, je n'ai pas dîné. » Un éclat de rire accueillit de toutes parts cette confession. « J'avais bien, moi, une autre chose à fouetter. J'étais dans la bibliothèque. Et vous n'avez pas entendu la cloche ?»« La cloche, il se lissait bien des cloches. » Il tira de sa poche un vieux parchemin sur lequel étaient tracés quelques caractères en langue gasconne suivant une courte relation de vieux français. Eh bien, mes enfants, il s'en est passé des choses ici, de belles choses. Oh, j'en ai encore la chair de poule. Chacun courut, roula, quitte son fauteuil, son pas, petit, son tabouret. Le vieux savant, en un clin d'œil, fut entouré d'un infranchissable cercle de soins. Les visages attentifs, les yeux allaient au-devant de ses paroles. Oh, voilà une histoire, une vraie histoire. Viens, mon petit panier, papier. On ne mentait pas dans ce temps-là. L'histoire, vite! Oh, c'est dans ces cours, vous allez voir. Ce papier vient de l'abbaye de Castelfleury, qu'on a pillé en 93. On a apporté ici une partie des archives. Je ne me suis plus à feuilleter les circulaires, les cartulaires, et cette note est tombée sous mes yeux. La phrase gasconne, en gros titre, signifiait « La comtesse du révérend que j'ai fait mourir, la comtesse dans la chambre muette de Dombasle, ce jour du 21 mars 1614, Messire Comte de Bresles et d'Anxieux m'a déclaré, sous le sceau de la confession, la mort de la comtesse, sa femme, surprise en mal faute d'adultère, et lui est, pour pénitence, fait écrire cette déclaration qui sera conservée aux archives de l'abbaye. Le 10 mars, le comte de Fresles, rentrant de la chasse au bois d'Anxieux, fut assuré par un valet qu'il avait à cette intention apostée au château que le sire de Hoqueton, son voisin et supposé l'amant de la comtesse, était entré au château de Dombasle par la potence terme. Il existe au château une chambre secrète dont le secret n'est connu que des maîtres de la maison. Et dans la dite chambre, on se réfugie en grave danger. La dame de Bresles, entendant le retour prématuré de son époux, imagine de cacher le sire de Hoqueton dans cette partie mystérieuse de la maison. Le comte de Bresles demeure 2 jours au château sans quitter sa femme, qui était dans la douleur et les larmes. Sachant son cher et noble amant dans les tortures de la faim. Ne la questionnant point et se donnant au cas, d'autant que la comtesse connaissait de lui le secret de la chambre muette. Le troisième jour, il donna une grande fête où vint des environs danser au château et dîner en la salle à manger. La pauvre comtesse, plus morte que vive, attendit que les convives eussent occupé aux chansons et se glissant par lui ouvert, à la portée des vivres, sire de Hoqueton, et tenter de le faire fuir. Lors, le comte de Brel se leva, poussa le ressort de la chambre muette, et le pauvre dame et le pauvre sire furent pris comme au trébuchet. Depuis, il ne parla plus de femme qui fût censée avoir suivi l'amant durant la fête, son galant en pays étranger, car on ne revit plus ni l'un ni l'autre. La tradition fut que le secret de la chambre est dans le mascaron du seigneur l'Arlequin, personnage de la comédie italienne. Ensuite, cria-t-on de toutes parts, « Oh, c'est très intéressant, n'est-ce pas ? Mais c'est tout. La charmante comtesse de Brel n'a plus qu'à nous montrer la chambre muette. La chambre muette. Mais en vérité, votre histoire sur parchemin, mon cher monseigneur Domestier, est juste un conte bleu. Il n'y a jamais eu de chambre muette. On a démoli du château que les tourelles. La masse est absolument intacte et nul n'a jamais entendu parler de cette noble histoire. Bien, en ce cas, je vois que nous allons avoir à résoudre le problème le plus noir et en même temps le plus joli problème du monde. Nous allons retrouver séance tenante la chambre muette. Oh, il suffit pour cela de mettre la logique aux prises avec le bon sens. Voilà, j'espère, un jeu de devinettes sérieux. Et comme peu de personnes ont l'honneur d'en trouver un. Oh, l'aimable soirée que cela va être! Et on poussait à la fois dans le salon des clameurs d'enthousiasme et de terreur. Mais, mon ami, répétait Madame de Presles, en admettant que votre histoire ne soit pas un conte de moine, je ne vois pas où il y aurait dans mon château place pour une chambre muette et inconnue. Oh, sous ce rapport, je pourrais vous citer 1000 exemples de cachettes d'oubliettes dont personne ne soupçonnait l'existence. Pourtant, on vivait en contact avec elle. Une personne de mes amis avait un vrai cimetière de protestants sous les pieds. Elle en avait cure. Les architectes d'autrefois n'étaient pas ses maîtres en cette matière. Maintenant, suivez mes déductions. Le comte, votre ancêtre, savait seul l'existence de la chambre muette. Il est probable qu'il n'a révélé à personne son secret, puisqu'à partir de cette époque, avec laquelle nous avons le plus intime rapport historique, on n'entend point parler du tout. Il a gardé le fait au fond de sa conscience. Quant à faire disparaître les cadavres, il aurait pu être surpris et sans doute une enquête aurait suivi. La chambre muette était prête à tout le meilleur des tombes. Donc, logiquement, Madame de Brel, votre aïeul et le sire de Hocton sont encore dans leur mortelle prison. Si l'on eût trouvé cette chambre secrète en démolissant les tours du Bombard, il est probable que dans tout le pays, il ait été sur pied pendant 8 jours pour contempler cette curiosité. Mais il n'en reste pas trace, et vous l'eussiez avant tout le monde, vous, dont le feu mari commandait tous les travaux. Malheureusement, une seule personne ne pouvait vous renseigner sur les événements contemporains. Qui ? S'écrièrent tous d'une voix les assistants. Mais le nègre, répondit M. Monestier avec un rire ironique. Mais il est muet. Voici deux grandes heures que je réfléchis et j'avoue que je ne trouve pas la clé de ce monstrueux événement. Où trouver cette chambre dans ce vaste château? Est-ce dans la cave? Non, le raisonnement le démontre. Il y avait une fête et les convives étaient en belle beuverie. Les caves étaient pleines de monde et la comtesse ne se serait point hasardée. Il faut donc que l'entrée fût dans les appartements en particulier. J'ai consulté le plan de 1580. La chambre à coucher de la comtesse était dans cette pièce même. En voici le plan. Là était réellement le renflement de la tour aujourd'hui détruite. Et cela vous fait une armoire superbe, comtesse. Dans ce temps-là, les surprises étaient fréquentes. Les parties opéraient vite et dans l'ombre. On ne pouvait mettre un réduit aussi clair dans les caves ou dans les combles sans les parties du château que la domesticité habite. Il fallait donc que l'entrée en fut dans la pièce même où se cachait le seigneur. Donc, c'est ici qu'est l'entrée de la chambre muette. On eût entendu voler un papillon dans le vaste salon de Madame de Brel durant cette démonstration du logicien. Les glaces reflétaient des visages bleuâtres de peur et les jeunes filles commençaient à se voiler le visage de leurs mains. « Mais c'est affreux ce que le docteur Bessonnier » cria-t-on. « Quoi ? » dit la comtesse. « Nous serions ainsi près de cette malheureuse et de son amant ? Nos dames les éveilleraient de leur éternel repos. Oh, cela est impossible. D'ailleurs, où voyez-vous ici trace de porte ? Les boiseries sont visibles et ne cachent aucun mystère. On les a remplacées. Ou bien racornies. Et le parquet, madame, fit le vieux Monestier en se levant. Ce parquet de chêne massif, croyez-vous qu'on y est touché ? Une clameur générale poussée par les femmes l'interrompit. Il semblait qu'on marchait sur du feu. Docteur, vous nous faites une peur atroce. Et les hommes eux-mêmes semblaient entrer dans cet étrange récit, très intéressés. Mais, dit l'un d'eux, il est question d'un mascaron, du masque picaresque d'Arlequin. Nous n'avons ici aucune trace de cette sculpture. C'est là précisément ce qui me fait douter que nous réussissions. On aura supprimé le mascaron sans savoir ce qu'il pouvait indiquer. Mais, dit un autre, pourquoi l'abbé aurait-il gardé en écrit cette confidence? C'est peut-être que l'imagination le moine inoccupé. Oh, oh, que non pas, monsieur. Le grand cachet de cire rouge du prieur était au bar. Et en voici la preuve. C'était là une pièce importante. On tenait le seigneur avec un secret pareil. On était sûr du bon voisinage. Eh bien, visitons cependant avec soin, fit la comtesse. Aussitôt, les bougies fouillèrent jusqu'aux moulures interstices. On ne trouva rien. Enfin, une jeune fille posa dans la main du nègre sa bougie. « Cherche-la, dit-elle, toi qui es le diable. Peut-être trouveras-tu. D'ailleurs, sournois, on apprend, on sait que tu le sais. Silence, mes enfants, s'écria soudain le père Brestier, devenu blême. Le nègre va peut-être parler. On se tut d'une seconde. Cette légendaire statue avait bien l'air d'en avoir envie. Elle semblait promener sur l'assemblée son regard sardonique et son sourire se moquaient. On revint bientôt de cette panique. On allait rire. Vous ne riez pas. Ce que je dis est sérieux. Voyez ce rouge noir, ce sage, ce visage noir. Rappelez-vous, qu'Arlequin de la comédie italienne était noir, et que ce masque de la gaieté est de tradition. Peut-être habillait-on quelquefois de couleur bigarrée cette statue, peut-être. Ah, le trou de la gorge, murmura la comtesse chancelante d'émotion. Le clou! On ne riait plus. Les femmes commençaient à pousser des cris. Et les hommes entouraient la statue. Vous avez raison, dit Monestier. Le clou est là pour quelque chose. Ah, il faut le retirer. On courut aux tenailles. Oh, ce ne fut pas sans peine et sans de grandes précautions qu'on réussit à le retirer du bois sans le briser. On sonda la place qu'il laissait béante. Mais rien n'indiquait la présence d'un mécanisme quelconque. On palpa la tête du nègre dans tous les sens. Aucun ressort ne se révéla. De guerre lasse, on allait renoncer lorsque Blestier s'écria. Mais les yeux doivent être mobiles. On appuya sur l'orbite d'émail. Les yeux renèrent et tournèrent sur leurs orbites, non sans avoir offert cette résistance que l'adhérence et la rouille donnent aux antiques rouages. Tout le monde était réuni dans l'antichambre autour de la statue mystérieuse. Comme aucun bruit ne s'était fait entendre, on crut à quelque jeu du sculpteur. Mais la comtesse, qui ne disait et qui ne dissimulait plus sa frayeur, était rentrée du salon. On l'entendit soudain pousser un cri terrible. on courut derrière elle. Un panneau de la boiserie du salon, d'une largeur d'un mètre environ, venait de glisser dans une rainure du parquet et descendait ensuite encore lentement, laissant à découvert une ouverture obscure d'où s'échappait un air nauséabond. Monestier, le plus brave, ou plutôt le plus philosophe des membres de l'assemblée, attendit une seconde et, prenant un flambeau des mains d'une jeune fille prête à s'évanouir, franchit délibérément le passage obscur. Il éclaira ainsi les parois matelassées d'un épais cuir de cordoue d'une chambre sans meubles. À terre, des vestiges d'un tapis et dans une étoffe métallique que reconnut pour être de ces merveilleux brocarts d'argent que Venise fabriquait exclusivement encore au XVIIe siècle, un squelette était enveloppé. L'humidité n'avait point mordu sur les fils inaltérables. Ce débris humain paraissait encore en être vêtu. Le crâne, détaché de la colonne vertébrale, était auprès. À quelque distance de là, un autre squelette, encore embarrassé d'une épée retenue autour de lui par une chaînette d'acier rouillé, et celui-là était celui d'un homme grand et fort. Le squelette de la robe de brocart était celui d'une femme de petite taille. Monestier sortit de la chambre, muette, au milieu des cris d'effroi et des évanouissements. On emportait la comtesse en proie à une crise nerveuse. Pour mettre fin à cette crise, il courut au nègre et en appuyant sur les paupières en sens inverse, les yeux reprirent leur place et leur regard railleur. Et en même temps, le panneau remontait lentement, cachant la tombe un instant révélé de la comtesse de Presles et du sieur de Hoqueton. Quand l'émotion fut un peu calmée, « Eh bien, mes enfants, interrogea le savant d'une voix altérée, que dites-vous de mes histoires ?» Depuis ce temps, au château de Dombard, on ne pénètre point dans cette partie de la maison. Le nègre est toujours à la même place, un trou béant au cou. Madame de Presles veut que le repos éternel soit acquis dans leur retraite à ceux que leur mort terrible absout de leur faute.